Christian Bobin, c'est un vrai plaisir, toujours renouvelé, de vous retrouver chez vous, dans votre maison, à l'orée de la forêt, près du Creusot, la ville de votre enfance. La dernière fois que je suis venu vous rencontrer, nous étions au coin du feu pour parler de l'esprit de Noël. Et cette fois-ci, nous sommes dehors, sur la terrasse, en plein soleil, à quelques mètres des herbes folles que vous laissez pousser. Vous êtes écrivain, poète, et c'est autour de votre nouveau livre que nous allons échanger aujourd'hui. Un livre intitulé « Un bruit de balançoire » que vous publiez aux éditions L'Iconoclaste. Alors il y a un personnage qui vous a accompagné tout au long de l'écriture de ce livre, c'est Ryokan. Un moine errant et poète japonais de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. Et vous écrivez dans votre ouvrage « Je n'ai pas écrit un livre sur Ryokan, mais avec lui ». Et le « avec » est le seul mot souligné du livre. Qu'est-ce qui vous a attiré chez ce moine zen ?
Si vous saviez à quel point je cherche la joie. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est séparé de façon étanche de toute douleur, de toute difficulté. Mais je cherche quelqu'un. Toujours, je cherche quelqu'un.
Depuis toujours ?
Toujours, depuis toujours. C'est peu à peu, en écrivant, que j'en ai pris conscience, vous voyez ? Mais écrire, pour moi, c'est appeler dans le noir, espérer qu'il y ait un écho, espérer que la parole va s'éclairer en butant contre un visage. Et là, en l'occurrence, Ryokan, poète japonais, grand poète, grand moine du 19e siècle, il est venu ici, dans ma maison, parce que j'ai, entre autres, infirmité de ne pas non plus séparer. Je ne sépare rien. Je ne sépare pas non plus les présents des absents. Donc, cet homme a beau être dans une île où je ne suis jamais allé. Il a beau avoir été confit dans son 19e siècle et ses cendres y restaient définitivement, ou y volaient plutôt, ici ou là, et puis disparaître, et puis revenir autrement, sous une autre forme. Eh bien, il est là. Quand j'ouvre un de ses livres, il est là, et il a cette qualité que je demande, c'est un peu fort comme terme, mais que j'espère plutôt, en toute personne que je vois venir ou que je rencontre, la gaieté. Pas le bonheur, pas l'optimisme, la gaieté. C'est-à-dire, mais on en parlera peut-être, on précisera peut-être.
Oui, il est joyeux. Vous l'avez senti comme quelqu'un de joyeux.
Il est joyeux jusque dans le... Il est vrai, voilà. Il est vrai. Quand ça va pas bien, il dit que ça va pas bien. Et c'est très curieux, il le dit si légèrement que vous vous sentez bien et que vous êtes devant comme un frère et que plus rien n'est... Puisque celui-là a traversé une épreuve, alors il a comme, avec sa parole, avec son poème, il a comme béni mon épreuve à moi.
Et vous venez d'utiliser le mot de frère. Moi, j'ai senti que Ryokan, c'était votre frère. Et parfois même, je me demandais si vous parliez de Ryokan ou si vous parliez de vous-même. Au cœur de votre nouveau livre, il y a « Mon bon Ryokan ». Vous lui écrivez une lettre. Et vous commencez comme ceci. « Je n'ai rien fait de ma vie. Rien. Juste bâti un nid d'hirondelle sous la poutre du langage. » Et là, je me suis dit « Mais c'est Ryokan ou c'est Christian Bobin ?»
On peut dire ça de lui.
Et on peut dire ça de vous.
Et on peut dire ça de moi. En tout cas, je le dis. Je le dis.
Et alors ce rien, ce mot de rien, je n'ai rien fait de ma vie. Ça, j'aimerais qu'on passe un moment autour de ce rien. Qu'est-ce que c'est que n'être rien ?
Vous voyez, on vous apprend, et on a peut-être raison de le faire, dans un premier temps c'est nécessaire, on vous apprend dans cette vie, quand vous êtes petit, et un peu plus tard aussi, à chercher les choses solides. Les choses solides vous sont données parfois par la morale, elles vous sont données par un travail, par des récompenses, par de l'argent, par des soucis, parce que Dieu sait si les soucis en nous sont solides, ainsi de suite. Or, peu à peu, parce que le sol à certains moments se dérobe sous nos pieds, parce que ici ou là il y a une épreuve, ou alors il y a une joie qui ouvre aussi un abîme, on s'aperçoit que les choses dites solides ne le sont pas en vérité. l'argent, les affaires, les soucis, les savoirs, les certitudes, ça ne tient pas vraiment le coup, ça ne tient pas le choc, ni de la grâce, ni de l'épreuve. Qu'est-ce qui reste ? Il reste ce qu'on peut appeler rien. Mais ce rien, il est de la plus haute qualité. C'est la fleur même de la vie. Comment je pourrais vous le préciser ? Il faudrait... Nous sommes là sur une terrasse. Cette émission est capturée en été. Et
on a un papillon qui est en train de voler autour de nous et on entend les insectes derrière nous, au milieu de vos herbes sauvages que vous n'avez pas coupées.
Voilà.
On n'est pas face à un jardin entretenu chez vous.
Voilà, voilà. Et c'est bien que vous parliez du papillon, parce que le papillon, c'est, dans un jardin, c'est comme une question qui vole. Et il n'y a pas de réponse. Mais la question est elle-même suffisante, elle est elle-même rafraîchissante, elle traverse tout. Et ce rien dont je parle, il a la délicatesse des ailes du papillon, vous voyez ? Un peu ce... Je dis que c'est rien, parce que il me semble qu'il faut protéger le plus profond du cœur, ce que vous aimez le plus, il faut le mettre à l'abri dans un mot qui le cachera. Même quand vous le donnerez, il sera caché, de façon d'ailleurs à ce que le don puisse se faire. Ce sera la personne en face de l'ouvrir. Vous voyez ? Et c'est un sentiment. C'est un sentiment qui n'est pas sentimental. C'est un sentiment. C'est une sorte d'intuition. C'est... Vous ouvrez la fenêtre un jour. Parfois, vous voyez du linge qui flotte. Vous ouvrez la fenêtre et puis vous voyez votre vie qui passe. Elle n'est plus en vous, elle est en dehors de vous. Et vous acceptez qu'elle passe. Et vous trouvez rien de plus beau tout d'un coup, vous ne reconnaissez rien de plus beau que ce passage. C'est ce rien, c'est la pensée peut-être la plus pure qu'on puisse avoir sur la vie. Et elle est difficile à préciser, comme vous entendez.
Vous écrivez dans votre livre, « N'être rien, peu y parviennent. On dit qu'ayant tout trouvé en lui, au plus blanc de la montagne de son cœur, aux neiges éternelles de son sang, ayant trouvé plus que tout, Ryokan est redescendu se mêler aux simples et aux perdus. Il ne leur faisait pas la morale et ne leur parlait pas des dieux. La silencieuse intelligence qu'il avait de la vie se communiquait à tous comme une guérison virale. »
Oui. Oui, parce que là, c'est ce par quoi nous avons chance d'instruire autour de nous. Ce ne sera pas tant avec nos paroles, ce ne sera pas même avec une morale, mais c'est cette chose impondérable qu'est la présence, la vérité de notre présence ou de notre voix. C'est ça qui va toucher l'autre. Et c'est ça qui va peut-être le réveiller, et c'est ça en lui qui va nous réveiller. Parce que ça se passe dans tous les sens, cette histoire. Ce que vous venez de lire, il y a plusieurs fables ou... Enfin, qui sont plus que des fables, d'ailleurs, qui sont des petits, comme des mini-évangiles concernant Ryokan. Et un jour, il séjourne. Il est mendiant, alors on l'accueille ici ou là. Et un jour, il séjourne dans une famille dont le fils est brutal. Et il ne dit rien. Lui, il ne dit rien à ce fils. Rien. Il reste 2-3 jours. Et le dernier jour, le troisième jour, il demande juste, parce qu'il a quelques difficultés à se pencher, il demande juste au fils de l'aider à nouer une chaussure, à lacer une chaussure. Le fils s'agenouille et puis le Ryokan verse juste une larme. Parce que il sait toute la douleur qu'engendre ce garçon. Et il sait aussi que cette douleur vient elle-même d'une douleur à l'intérieur du cœur de ce garçon. Et l'enfant, l'adolescent, relève la tête et comprend comme on comprend seulement l'essentiel, c'est-à-dire par un éclair, sans mots. Il comprend que cet homme est en empathie avec lui. Il est en empathie avec la famille entière qui est déchirée par un seul des siens. Et il est en empathie aussi avec lui. Et l'attitude de cet adolescent changera du jour au lendemain, sans qu'un mot de reproche lui ait été fait. Vous voyez ? Et ça, c'est le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre.
L'enseignement des enseignements.
Ah oui.
Silencieux.
Ah oui. Mais les enfants, tout petits, ils ont cette chose, c'est-à-dire, ils vont pas nous juger sur ce qu'on dit. Tenez, là en ce moment, j'ai mes deux mains offertes, ouvertes vers vous, un peu le bras, un peu en oblique, appuyé sur la table, le coude sur la table. Et je pense qu'un enfant qui n'aurait pas tous les mots, se demanderait un peu ce qu'on fait qui est un peu étrange, mais regarderait, et même en une seconde, verrait beaucoup de choses. L'attitude du corps, l'attitude du visage, le timbre de la voix. Je suis maladivement sensible aux voix. Elles mentent, et elles disent qu'elles mentent quand elles mentent. Elles ne le savent pas, mais elles disent qu'elles mentent. Vous savez ça, vous, hein ?
Non ? J'essaye d'écouter.
C'est oui, voilà. Il suffit d'écouter. Et une voix qui cherche, qui dit le vrai, mais il n'y a rien de plus... Je m'exalte un peu en vous parlant, en répondant à votre question, mais parce que je pense que nous pouvons être des miracles les uns par rapport aux autres. Et je pense que nous pouvons... Ce n'est pas un moine, ce n'est pas extraordinaire. Un saint, ce n'est pas extraordinaire. C'est la vie qui est extraordinaire. Et si nous nous mettons dans son flux, nous pourrions, je crois, obtenir des choses comme dans cette histoire, comme dans ce passage que vous avez lu, silencieusement, sans morale, juste avec une empathie brûlante de l'autre, une compréhension de l'incompréhensible.